Marigny expliqua que si les vivres se faisaient rares, donc plus chers, on ne devait point s'en montrer trop surpris. La paix qu'avait maintenue le roi Philippe favorisait l'accroissement en nombre de ses sujets. Nous mangeons le même blé, mais nous sommes plus à le partager. Il fallait donc semer davantage, et pour semer, il fallait la tranquillité dans l'État, l'obéissance aux ordonnances, la participation de chaque région à la prospérité de toutes. Or, qui menaçait la paix ? La Flandre, qui refusait de contribuer au bien général ? La Flandre, qui gardait ses blés et ses draps, préférant les vendre à l'étranger plutôt que de les diriger vers l'intérieur du royaume où sévissait la pénurie ? La Flandre. En refusant d'acquitter les tailles et droits de traite, les villes flamandes aggravaient forcément la proportion des charges pour les autres sujets du roi. La Flandre devait céder. On l'y contraindrait par la force. Mais pour cela, il fallait des subsides. Toutes les villes ici représentées par leurs bourgeois devaient donc, dans leur propre intérêt, accepter une levée exceptionnelle d'impôts. « Ainsi se feront voir, acheva Marigny, ceux qui donneront aide à aller contre les Flamands. » Une rumeur s'éleva, bientôt dominée par la voix d'Étienne Barbette. Barbette, maître de la monnaie de Paris, échevin, prévôt des marchands, et fort riche d'un commerce de toiles et de chevaux, était l'allié de Marigny. Son intervention avait été préparée. Au nom de la première ville du royaume, Barbette promit l'aide requise. Il entraîna l'assistance, et les députés de 43 bonnes villes acclamèrent d'une même voix le roi, Marigny et Barbette. Si l'assemblée avait été une victoire, les résultats financiers se montrèrent assez décevants. L'armée fut mise sur pied avant que la subvention ait été recouvrée. Le roi et son coadjuteur souhaitaient faire une démonstration rapide d'autorité plutôt que conduire une vraie guerre. L'expédition fut une imposante promenade militaire. Marigny, à peine les troupes en marche, fit connaître à l'adversaire qu'il était prêt à négocier et se hâta de conclure, les premiers jours de septembre, la convention de Marquette. Mais aussitôt l'armée partie, Louis de Nevers, fils de Robert de Béthune, comte de Flandre, dénonça la convention. Pour Marigny, c'était l'échec. Valois, qui en venait à se réjouir d'une défaite pour le royaume si cette défaite nuisait au coadjuteur, accusait ce dernier publiquement de s'être laissé acheter par les Flamands. La note de la campagne demeurait à payer, et les officiers royaux continuaient donc de percevoir, à grand-peine et au vif mécontentement des provinces, l'aide exceptionnelle consentie pour une entreprise déjà close et par l'insuccès. Le trésor s'épuisait, et Marigny devait envisager de nouveaux expédients. Les Juifs avaient été spoliés par deux fois. Les tondres à nouveau donneraient peu de laine. Les Templiers n'existaient plus, et leur or était depuis longtemps fondu. Restaient les Lombards. Déjà en 1311, on les avait décrétés d'expulsion, sans intention véritable d'exécuter l'ordonnance, mais pour les obliger de racheter fort cher leur droit de séjour. Cette fois, il ne pouvait s'agir de rachat. C'était la saisie de tous leurs biens et leur renvoi de France que Marigny méditait. Le trafic qu'ils maintenaient avec la Flandre au mépris des instructions royales et l'appui financier qu'ils apportaient aux ligues seigneuriales justifiaient la mesure en préparation. Mais le morceau était de taille. Les banquiers et négociants italiens, bourgeois du roi, avaient réussi à très solidement s'organiser, en compagnie, avec à leur tête un capitaine général élu. Ils contrôlaient le commerce vers l'étranger et régnaient sur le crédit. Les transports, le courrier privé et même certains recouvrements d'impôts passaient par leurs mains. Ils prêtaient aux barons, aux villes, aux rois. Ils faisaient même l'aumône lorsqu'il le fallait. Aussi Marigny passa-t-il plusieurs semaines à mettre au point son projet. Il était homme tenace et la nécessité l'aiguillonnait. Mais Nogaret n'était plus là. D'autre part, les Lombards de Paris, gens bien informés et instruits par l'expérience, payaient cher les secrets du pouvoir. Ptolomei, de son seul œil ouvert, veillait.